À 6h30 en temps universel et à Bamako. L'actualité africaine avec vous, Simon Bourtembourg, et à la une, la passe d'armes entre l'Algérie et les pays de l'AES.
La critique diplomatique s'enracine. Alger exprime sa consternation après le rappel des ambassadeurs du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Décision solidaire des États de l'Alliance des États du Sahel, alors que Bamako accuse le régime algérien d'avoir abattu fin mars un drone de son armée. Les menaces du gouvernement ivoirien ne changent rien. Les enseignants du secteur public poursuivent leur guerre rêve entamée hier. Ils réclament notamment le paiement de leurs primes. Tenter d'obtenir une exemption de nouveau de droits de douane américain, c'est la mission que s'est donnée le ministre ghanéen des Affaires étrangères. Il a rencontré pour ce faire hier l'ambassadrice américaine au Ghana. Dans cette édition également, nous le verrons, le Niger promulgue une nouvelle langue officielle. Et puis le dossier de ce journal nous emmène en Côte d'Ivoire où le mois d'avril est consacré à une campagne de sensibilisation aux troubles autistiques.
Le ton monte donc entre Alger et les trois pays membres de l'AES.
L'escalade est de mise depuis la destruction fin mars d'un drone malien par l'Algérie à la frontière entre les deux pays. Alger et Bamako ont annoncé depuis la fermeture de leur espace aérien respectif. Et un peu plus tôt, l'Algérie avait répondu au Mali et à ses alliés nigériens et burkinabés. Bamako qui assure de son côté que son drone n'est jamais entré sur le territoire algérien et qu'il n'avait donc pas à être abattu comme l'a revendiqué Alger. Quoi qu'il en soit, David Baché, la crise diplomatique s'intensifie, mais sans entrer à ce stade dans une dimension militaire.
Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis, avertissait Abdoulaye Maïga en septembre dernier. À la tribune des Nations Unies, l'actuel Premier ministre malien s'adressait déjà à l'Algérie. S'agissant du drone abattu à Tinzawaten, la menace n'a pas été mise à exécution. Si l'avenir reste imprévisible, les chercheurs sahéliens et algériens joints par RFI ne croient pas que le conflit puisse prendre une dimension militaire. La supériorité, en tout cas supposée, de l'armée algérienne est un argument largement partagé. Le partenariat des deux pays avec la Russie, alliée de l'Algérie comme du Mali, est également cité comme une limite. Les observateurs décryptent les formules agressives des deux camps, mais relèvent une forme de retenue dans l'escalade. Le Mali quitte le CEMOC, ce comité d'état-major conjoint est décrit comme une coquille vide, jamais opérationnelle. Une plainte devant les instances internationales, pas de quoi faire davantage frémir Alger. Un chercheur malien estime cependant que Bamako garde des munitions, rupture diplomatique, reconnaissance du Sahara occidental marocain par exemple. Le feuilleton n'est pas terminé, prédit cette source. Quelques heures plus tard, Alger et Bamako se fermaient mutuellement leur espace aérien.
La précision signée David Baché.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement menace de licencier les enseignants grévistes.
Et loin de saper le moral des grévistes, voilà de quoi attiser même un peu plus la colère des syndicats qui appellent au mouvement social. La grève qui a commencé hier doit se poursuivre aujourd'hui. Les enseignants du secteur public entendent bien obtenir l'augmentation de leur prime trimestrielle. Reportage signé Binta Diagne.
Au collège moderne de Mputo, des élèves s'occupent en attendant leurs professeurs. Certains font leurs devoirs, d'autres révisent leurs leçons.
Normalement, on a cours à 8h25 avec une professeure d'espagnol.
Et là, qu'est-ce que vous faites avec vos cahiers actuellement ?
On devrait se mettre à jour puisqu'on est très en retard sur les cours de physique-chimie.
En milieu de matinée, dans la commune d'Abobo, plusieurs dizaines d'élèves quittent l'école dépités.
Ça nous perturbe beaucoup parce que nous sommes en classe d'examen. Donc, on devait bosser, faire les cours, mais eux ne viennent pas à cause des grèves. Nous, ça nous fatigue.
Ce mouvement est initié par deux centrales syndicales. Les enseignants réclament l'octroi d'une prime d'incitation. Des discussions sont en cours depuis octobre dernier, mais les syndicats accusent le gouvernement de faire traîner les négociations. David Bliblé, le porte-parole de ce mouvement.
Le taux de suivi est vraiment exemplaire au niveau de l'enseignement secondaire général, avec un taux de 97,69%.
Pour le gouvernement, cette grève est illégale, car elle contredit l'esprit de la trêve sociale qui prévaut jusqu'en 2027. Xavier Efoué, conseiller en communication au ministère de l'Éducation.
Le dialogue n'a jamais été rompu. On ne comprend pas pourquoi, au moment où le comité d'experts mis en place par le comité consultatif de la fonction publique est en train d'analyser et d'examiner tous les dossiers que des organisations syndicales décident d'aller en grève.
En octobre dernier, un mouvement social similaire avait conduit à la suspension de salaire pour 26 enseignants grévistes. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
En Côte d'Ivoire toujours, cette tentative d'évasion hier à la prison de Boaké. Un détenu est mort asphyxié dans une bousculade et trois autres personnes ont été blessées. Il s'agit des conséquences d'un mouvement de foule à l'ouverture des cellules. Des détenus ont tenté une évasion massive. Le temps a manqué hier au Bénin dans le procès de Steve Amoussou. L'affaire de celui qui est accusé d'être un cyberactiviste anti-autorité est reportée au 14 avril prochain. Après un débat d'environ une heure, le président a renvoyé le réquisitoire et les plaidoiries. Steve Amoussou est accusé d'être frère Unvi, critique sévère de Patrice Talon sur les réseaux sociaux. Il est poursuivi pour provocation à la rébellion, initiation et publication de fausses nouvelles et harcèlement par voie électronique.
On en parle depuis plusieurs jours maintenant sur RFI, les droits de douane de Donald Trump qui n'épargnent pas le continent africain.
Les produits africains exportés vers les États-Unis se voient donc imposer des taxes supplémentaires allant de 10% à 50% selon les pays. Alors que faire pour limiter la casse? Eh bien, c'est à cette question qu'a tenté de répondre le ministre des Affaires étrangères du Ghana. Hier, il a rencontré l'ambassadrice américaine à Accra pour trouver des compromis. Victor Cariou.
Le pétrole et les produits énergétiques ne sont pas affectés par les nouveaux droits de douane. Voici la seule et unique assurance concrète qu'a exprimée Virginia Palmer, l'ambassadrice des États-Unis au Ghana, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères ghanéen. Un soulagement pour le pays d'Afrique de l'Ouest, le pétrole représentant 60% de ses exportations vers son partenaire américain. Le reste, cependant, demeure très flou sur la question du cacao, par exemple. Le deuxième produit le plus exporté vers les États-Unis, désormais taxé à hauteur de 10%, a seulement fait l'objet, je cite, de discussions pour une éventuelle exemption de droits de douane sans plus de précision. Quant aux moyens de limiter les conséquences sur l'emploi et l'économie au Ghana, c'est encore moins clair. Le ministère des Affaires étrangères ghanéen évoque uniquement le maintien de discussions continues par des voies diplomatiques. Contactée par RFI, l'ambassade américaine au Ghana a quant à elle indiqué que cette réunion visait surtout à rassurer le gouvernement ghanéen de l'importance de leurs relations bilatérales. Victor Cariou, Accra, RFI.
Après avoir claqué la porte de l'Organisation internationale de la francophonie, le Niger promulgue une nouvelle langue officielle.
À place à l'Aoussa, un décret en ce sens a été publié la semaine dernière au journal officiel. Ce texte, qui se fonde sur les recommandations des Assises nationales de février, a été entériné par Abdourahmane Tiani lors d'une cérémonie à Niamey à la fin du mois de mars. Les détails avec Magali Lagrange.
Le français devient une simple langue de travail. L'article 12 de la charte de la refondation ne mentionne plus de langue officielle. Il liste les 11 langues parlées du Niger et définit l'une d'entre elles comme langue nationale, le Hausa. C'est la plus parlée sur l'ensemble du territoire. Elle est comprise, selon un linguiste que nous avons pu joindre, par une grande majorité de la population. Vient ensuite le Zarma Sonraï, la langue de l'Ouest, parlée par à peu près un quart des Nigériens. Dans la constitution précédente, les langues de toutes les communautés du Niger avaient en toute égalité statut de langue nationale. Le français, parlé par 13% de la population, était donc la langue officielle. Mais les nouvelles autorités, en froid avec Paris, ont quitté l'Organisation internationale de la francophonie le mois dernier et rebaptisé récemment plusieurs rues de Niamey qui portaient des noms de français. Reste à savoir si ces changements linguistiques auront des conséquences concrètes. Sur les réseaux sociaux, certains internautes nigériens s'inquiètent d'une hiérarchisation des langues du pays et d'un risque de communautarisme.
Magali Lagrange du service Afrique de RFI.
Au Gabon, ils n'ont plus que 4 jours pour convaincre.
La dernière ligne droite en vue de la présidentielle de samedi. Une campagne menée d'une main de maître par le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, qui a rallié autour de lui la quasi-totalité du système politique. Alors, à quelques jours du scrutin, RFI donne la parole à l'ensemble des 8 candidats en lice. Thierry Yvon Michel Nguema a 46 ans. Il retente sa chance après une première candidature lors du scrutin annulé de 2023. Il a choisi cette année de faire campagne sur un credo résolument souverainiste et prône notamment la sortie du franc CFA.
La France a montré ses limites, mais qui, malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a implanté, une attitude de désinvolture qui, au jour d'aujourd'hui, le Gabonais ne s'y retrouve plus. Et la France, au lieu d'écouter la voix, le porte-flambeau du Gabonais le plus démuni, elle ne fait que s'enorgueillir en pillant par des situations conventionnelles. Pourquoi le Gabon reste plongé toujours sous la bannière du franc CFA? C'est un fonds de colonie française. Nous sommes un État souverain, au même titre que la France. Alors moi, j'estime que dès aujourd'hui, je prendrai des initiatives assez fortes, déjà pour sortir le Gabon du franc CFA, surtout de mettre à plat. Moi, je pense que mes adversaires ne sont pas outillés, ne sont pas à la pointe de la vision d'un véritable État libre.
Thierry Yvon Michel Ngoma au micro RFI de François Mazet. Et pour en savoir plus sur le scrutin présidentiel au Gabon, l'intégralité des interviews des candidats avec leurs motivations et leurs programmes, c'est à retrouver dans un article spécifique sur notre site www.rfi.fr.
Il est 6h40 en temps universel, place au dossier de cette édition. Simon, on part en Côte d'Ivoire où il est bon de se vêtir hein, de bleu en ce mois d'avril.
Un t-shirt ou un ruban bleu, signe de soutien aux personnes autistes ainsi qu'à leurs familles. En Côte d'Ivoire, la campagne Avril Bleu a commencé au début du mois à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Près de 300 000 personnes vivraient avec ce trouble du spectre autistique dans le pays. Mais pour beaucoup de familles, l'accès aux soins, à l'éducation et à un accompagnement adapté reste un parcours du combattant. Témoignage à Abidjan avec notre correspondant Abdoulaziz Diallo.
À 10 ans, le fils de Marilyn, enseignante à Boaké, n'a toujours pas trouvé d'école. Pourtant, c'est un enfant calme, curieux, mais diagnostiqué autiste.
On me dit qu'il va perturber les autres enfants et qu'on ne pouvait pas le mettre avec les autres.
Le diagnostic est tombé à ses 3 ans, mais Marilyn avait déjà des doutes bien avant.
À l'âge de 2 ans, il ne parlait toujours pas. Il fuyait du regard. Il ne se joignait pas à ses amis pour les jeux. Il était toujours dans son coin et il ne dormait pas la nuit.
En Côte d'Ivoire, l'accompagnement reste très limité. Les centres spécialisés sont rares, les listes d'attente longues et les coûts sont très élevés. Christelle Yoboué, mère d'un enfant autiste, en témoigne.
C'est plusieurs professionnels qui interviennent. Il faut débourser de l'argent. C'est au moins 100 000 que vous devez payer pour seulement la rééducation et puis aussi pour la personne qui l'accompagne à l'école, l'AVS, il faut encore payer. Donc si vous n'avez rien budgétisé pour le mois, c'est au moins 500 000.
L'association Parents au Cœur Bleu accompagne 100 de familles, mais la frustration gagne du terrain. Magori Liko est la présidente.
Nous, on partait de l'espoir qui fait vivre, mais 5 ans après, quand les choses ne bougent pas, c'est vraiment le découragement qui gagne. Les enfants qui grandissent, quand on fait un bilan, les parents ont peur de l'avenir.
Le dépistage précoce reste pourtant essentiel. Les signes à surveiller, retard de langage, absence de contact visuel, gestes répétitifs ou hypersensibilité au bruit. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Et nous l'entendions dans le reportage, l'autisme reste donc encore mal compris et très peu pris en charge en Côte d'Ivoire où 300 000 personnes vivraient pourtant avec ce trouble. Alors les autorités sanitaires affirment multiplier les efforts pour améliorer la détection, l'accompagnement et l'inclusion des personnes atteintes d'autisme. À la tête de ce chantier, le professeur Kwa Assem Médard, il est directeur coordinateur du Programme national de la santé mentale.
La prévention par le dépistage passe par la révision du carnet mère-enfant et d'intégrer des indicateurs de repérage précoce, des signes d'alerte de tout problème écart de développement avec focus sur l'autisme. Ça veut dire aujourd'hui, vous partez dans une maternité avec le nouveau carnet mère-enfant, il suffit de lire ce qu'il faut rechercher. La stratégie aujourd'hui, c'est dépister pour identifier les enfants à risque. On va outiller rapidement les médecins généralistes, les pédiatres, à l'effet d'aborder la démarche de diagnostic clinique et pour confirmer qu'effectivement il s'agit d'un enfant qui est autiste et préparer un projet de rééducation, de réhabilitation. On a déjà au moins 7 unités de prise en charge orthophonique dans le secteur public. On vient de terminer la soutenance de 17 orthophonistes du secteur publics qui seront déployés dans les 10 grandes régions stratégiques du ministère de la Santé, de telle sorte qu'il y ait une décentralisation des services de prise en charge des questions d'autisme.
Un témoignage au micro de notre correspondant à Abidjan, Abdoulaziz Diallo, et vous pouvez retrouver ce dossier sur l'autisme en Côte d'Ivoire sur notre site internet www.rfi.fr ainsi que sur notre application.
Et c'était le journal de Simon Bourtembourg. Il est 6h43 en temps universel. À la suite.